Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir la rabbinite Myriam Ackermann-Sommer et le rabbin Émile Ackermann, fondateur d'Ayeka, une communauté juive parisienne moderne orthodoxe. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. C'est une grande première. Et pourtant, on vous connaît de plus en plus dans le paysage juif français. Mais Ayeka reste encore parfois mal identifiée. Myriam Ackermann-Sommer, vous êtes rabbinite, enseignante, formée dans le monde de l'orthodoxie moderne. Et Émile Ackermann, vous êtes rabbin, engagé dans l'enseignement, la transmission et la construction communautaire. Vous êtes un couple dans la vie et dirigez ensemble votre communauté et sa synagogue. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire simplement qu'est-ce qu'Ayeka ?
Ayeka, c'est la première communauté orthodoxe moderne en France à s'être créée, d'ailleurs à la suite d'initiatives comme celle de Liliane Vanna, par exemple, Lecture Sefer. Et Ayeka, c'est une synagogue orthodoxe moderne au sens où on va y trouver, par exemple, dans les offices, on va y trouver une séparation au milieu de la salle entre hommes et femmes, qui est une séparation égalitaire. Et en même temps promouvoir une plus grande participation des femmes dans les offices, dans l'espace synagogal. Donc si on devait résumer, on dirait que c'est un office qui ressemble à n'importe quel office orthodoxe, à ceci près que les femmes y sont pleinement investies. C'est la même chose lorsqu'on a par exemple un cours de Torah, de Talmud, il va être à la fois donné, suivi par des hommes comme des femmes. Donc on prend acte d'une évolution sociétale plus globale, en vertu de laquelle les femmes sont désormais les égales des hommes dans tous les aspects de leur vie civile. Et on aspire, en ce sens, à promouvoir cette même égalité au sein du judaïsme.
Rabbin Émile Ackermann, Ayeka signifie en hébreu « Où es-tu ?» La question adressée à Adam dans la Genèse. Pourquoi vous avez choisi un nom qui est avant tout une sorte d'interpellation existentielle? Est-ce que c'est une manière de dire que le judaïsme commence toujours par une question sans forcément attendre la réponse?
Il y a de ça, Ayeka, donc, c'est après que Adam ait mangé le fruit défendu, Adam et Chava aient mangé le fruit défendu, la Torah nous dit que Dieu descend dans le jardin et dit à Adam, Ayeka, où es-tu? Et bien sûr, les commentateurs disent, Ayeka, où es-tu? Comment ça, Dieu ne sait pas où est Adam? Dieu n'est-il pas omniscient? C'est donc que Ayeka a été interprété plus largement comme un appel à la remise en question et comme un appel à la remise en question de manière générale, quotidien, une véritable direction de vie, en fait. Et quand il a fallu créer une communauté, créer le nom, avant même de créer notre communauté, créer le nom de notre... ce qui a commencé par un petit groupe d'études et qui maintenant est devenu une synagogue à temps plein, eh bien, j'ai dit tout de suite à Myriam, je pense au nom Ayeka, puisque c'est quelque chose qui me parle, c'est le questionnement perpétuel.
Et c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup des jeunes de notre âge qui venaient avec effectivement beaucoup de questionnements. Il y a une blague juive très connue qui dit qu'un rabbin répond à une question par une autre question, comme c'est souvent le cas dans le Talmud, avec un enchaînement très polysémique, un foisonnement de questionnements. Quand on a commencé Ayeka, on était avec ces jeunes qui avaient une vingtaine d'années et on leur disait aussi, Ayeka, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu veux aller? Je pense que c'était vraiment une co-construction. Cette synagogue qui désormais est un peu plus ancrée dans des institutions comme par exemple les CUJ qui nous accueillent à Gare du Nord. Au départ, on est parti de ce questionnement et de ce désir de changement, de trouver qui on était vraiment.
Alors cette co-construction, elle part aussi du couple que vous formez, et ça c'est une des originalités de Ayeka. Vous êtes donc épouse et époux. Comment vous en êtes venue à cette idée de devenir rabbinite et rabbin, peut-être simultanément ou presque en même temps, et de fonder cette communauté avec cette orientation particulière?
J'y vais, tu vois.
Vas-y.
C'est au départ un pari. C'est-à-dire que quand on s'est mis ensemble, rencontrés, fiancés et mariés à l'âge de 20 ans. Et on savait qu'on avait envie de construire quelque chose ensemble, quelque chose qui nous dépasse. On avait des influences, des idées déjà un petit peu floues. Et finalement, quand on a commencé simplement, même pas à donner des cours, mais au départ à proposer de mener un groupe d'études, c'est-à-dire sans même se mettre dans la position de celui qui sait, mais juste d'accompagner des personnes avec nous pour étudier... progressivement, après avoir été pris sous les ailes d'autres personnes qui nous ont aidés, qui nous ont permis de développer des communautés, notamment Myriam Echama, par exemple, Centre Flegg, Consistoire, Judith Darmon, c'est sa directrice. On a eu plein de gens qui se sont mis autour de ce petit cercle, qui ont commencé aussi à faire des shabbats, à se rencontrer lors de d'autres événements. Et finalement, ça donnait une communauté. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'il faudrait en faire quelque chose. Et à ce moment-là, mon épouse m'a dit, mais tu fais du droit, mais je vois que tu n'es pas du tout dedans. C'est quand tu as un temps libre, en fait, tu ne prends pas le code civil quand tu as du temps libre. Tu prends plutôt une Gemara, une page de Talmud. Finalement, tu devrais être rabbin. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, toi, tu n'as qu'à être rabbin. Et à ce moment-là, elle m'a dit, deal, faisons comme ça. Et donc, elle a juste cherché femme rabbin orthodoxe.
Et en France, ça n'existe pas. En France. C'est ainsi qu'on s'est tourné vers les États-Unis. Alors, il y avait les États-Unis et Israël. C'est toujours les deux seules possibilités au sein de l'orthodoxie. Alors, entre-temps, s'est créée l'école rabbinique de Paris pour femmes et hommes au sein du mouvement libéral. Mais à l'époque, il n'y avait par ailleurs rien du tout à part le séminaire israélite de France, qui est donc, rue Vauquelin et réservé aux hommes. Et comme j'avais fait des études d'anglais, que je venais de passer l'agrégation d'anglais, ça me semblait très logique de me tourner vers les États-Unis. Je me suis dit, il n'y aura pas la barrière de la langue, parce que moi, n'étant pas née dans une famille religieuse, j'étais encore en apprentissage de l'hébreu. Donc je me suis dit, des cours en anglais, ça me facilitera quand même la tâche. Et c'est ainsi qu'on s'est dirigé vers New York pour un séminaire, alors qui était dans le même bâtiment, un séminaire à la fois pour hommes, donc une yeshiva pour hommes, une yeshiva pour femmes, ce qui veut dire que finalement, on a eu notre ordination exactement au même moment, il y a 2 ans et demi. Et ça nous a permis à ce moment-là de prendre vraiment la tête d'une communauté. Alors c'était à chaque fois une construction assez lente avec des étapes qui faisait qu'en fait, quand on a reçu l'ordination, on avait déjà un petit local à Bastille, on avait déjà des gens qui venaient toutes les semaines, des shabbats, des études. Mais là, ça nous a vraiment aussi, je pense, ancré, ça nous a donné plus de légitimité pour pouvoir répondre notamment aux questions des fidèles, que ce soit des questions, on va dire, pastorales ou halakhiques qui ont trait à la loi juive. Et depuis, on a eu l'honneur de déménager au sein de l'écuge aussi parce qu'on avait un besoin d'un espace plus grand, il y avait des familles de plus en plus nombreuses qui venaient.
Alors, une création personnelle, un challenge que vous vous êtes fixé, mais en même temps, peut-être un contexte particulier, parce que quand on crée quelque chose, c'est souvent pour combler un manque. Et quel était le manque que vous ressentiez dans le judaïsme français lorsque vous avez décidé de créer cette communauté? Un manque d'études, un manque de sens, un manque d'exigence intellectuelle, un manque de lieu où on puisse penser sans renoncer à la halakha, donc Rabbin Émile Ackermann.
Alors l'idée, ce n'est pas du tout de dénigrer ce qui se fait en ce moment au sein du judaïsme français. Je pense qu'on a d'ailleurs tendance, malheureusement, de l'extérieur à un petit peu amoindrir ce qui se passe en France, alors qu'en fait, le judaïsme français est encore très, très vivant et il y a beaucoup d'initiatives, de jeunes initiatives qui continuent de se développer aujourd'hui. Donc là, on parle de 2017. Entre 2017 et maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées.
Je pense que quand on avait 20 ans, on est un peu arrivé en disant on va renverser la table, on va tout révolutionner. Et il y a plein de gens qui nous disaient tout à fait à raison, mais vous prenez pour qui? Et que maintenant, avec toutes ces années de recul, vu que maintenant ça fait 9 ans que ce projet est lancé, on se dit qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont très intéressantes dans beaucoup de milieux, mais qu'on vient répondre malgré tout à une demande spécifique. Je pense que si on se tourne vers le profil de nos fidèles, on comprend peut-être un peu mieux ce qu'ils recherchaient. Ça, c'est un autre élément très important dans l'orthodoxie moderne, à savoir un judaïsme qui soit finalement entre, on va dire, Torah Imderech Eretz ou Torah Umada, qui sont des concepts qui désignent le fait d'être à la fois pleinement dans le judaïsme et pleinement dans la vie en société, et aussi avec une approche universitaire, c'est-à-dire une exigence intellectuelle qui n'est pas forcément exactement celle de la yeshiva. C'est une approche particulière où on va valoriser peut-être des approches plus littéraires du Talmud ou l'utilisation de d'autres méthodes. Là, par exemple, ce soir, Ayeka organise un cours d'histoire juive sur les juifs en Inde, ce qui veut dire que je pense que nous, ça nous tient très à cœur, cette approche pluridisciplinaire. On a du coup beaucoup de personnes qui viennent, qui font des études. On fait par exemple un master recherche, on a plusieurs chercheurs qui sont actuellement en université. Je pense que c'est aussi un judaïsme qui est aux prises avec le savoir et pas seulement avec le savoir au sein du judaïsme. Et ça caractérise aussi notre communauté.
Donc, c'est pas tant ce qui manquait en général, mais ce qui nous manquait à nous personnellement, c'est-à-dire créer une communauté dans laquelle on se sent à l'aise, qui soit notre communauté. et dans laquelle on pouvait, en tant que jeune qui avait en même temps cette volonté de s'investir dans un judaïsme orthodoxe, halakhique, avec une rigueur dans les commandements, mais qui n'avait pas envie de renoncer pour autant à une forme d'ouverture sur le monde, comme tu l'as bien dit. Et en fait, cette communauté, elle, à nos yeux en tout cas, elle n'existait pas en tant que telle. Et c'est pour ça qu'on allait se tourner vers des institutions rabbiniques qui existaient déjà, qui se réclament voilà, d'une lignée de rabbins, d'une certaine pensée. On n'est pas arrivé à 20 ans en réinventant le judaïsme. Par contre, on s'est rattaché à un courant spécifique qui a une histoire, pas seulement aux États-Unis, mais en fait aussi, c'est l'histoire aussi de ma famille, le judaïsme alsacien et allemand avant la guerre. Et c'est essayer de remettre un petit peu une façon de vivre son orthodoxie qui a existé depuis en fait, la création des mouvements orthodoxes au moment des Lumières, et de le remettre un petit peu au goût du jour, là où en France, peut-être, il a été un peu perdu.
Alors cette obédience, cette orientation, je ne sais pas trop comment la qualifier, d'orthodoxie moderne qui vous définit, est une expression qui ne va pas de soi. Quand on en entend parler parfois, il y a certains esprits très questionneurs, parfois même très critiques, qui diraient que orthodoxie ne pourrait pas aller par définition avec modernité. Qu'est-ce que vous leur répondriez ?
Oui. Et puis je te laisserai compléter. Le terme orthodoxie moderne, on dit souvent que c'est un oxymore. En fait, c'était une manière pour les personnes qui ont créé ce courant aux États-Unis à la suite de la Seconde Guerre mondiale de pouvoir rendre compte justement des grands challenges qui attendaient les personnes qui justement voulaient vivre un judaïsme halakhique entier plein, mais dans un monde moderne. Et donc l'orthodoxie moderne, c'est une façon d'approcher le judaïsme et d'approcher la loi qui est différent de l'orthodoxie ou l'ultra-orthodoxie, dans le sens où l'orthodoxie et l'ultra-orthodoxie se voit elle-même comme dans une forme de forteresse, de citadelle assiégée.
Peut-être de résistance à la
modernité.
De résistance,
exactement. Qui serait à chaque fois une forme d'influence néfaste par rapport à une Torah ahistorique qui aurait toujours existé, une loi juive qui n'aurait jamais évolué, dont il faudrait la protéger justement d'influence extérieure. Or, l'orthodoxie moderne, et je pense que cette approche est assez juste et qu'elle se retrouve déjà chez les sages du Talmud, montre bien que dès le départ, dans l'évolution, dans la création de ce qu'est le judaïsme actuel, il y a toujours eu des échanges culturels, il y a toujours eu des choses que le judaïsme avait à donner et à prendre du monde extérieur, et que ce ne sont pas deux pôles opposés qui doivent s'affronter, mais au contraire, des concepts, des échanges, des dialogues en fait, qui ont lieu entre toutes les parties de la population, juifs et non-juifs.
Alors, Rabbanit Myriam, je vais vous poser une question peut-être pour compléter. Donc, la fidélité à la halakha d'une part, l'ouverture au monde, à la modernité, à l'universel d'autre part. Concrètement, comment ça se traduit dans la vie de la communauté Hayeka ?
Alors, dans la vie de la communauté Hayeka, je dirais qu'on a donc un référentiel qui est orthodoxe. On va valoriser la pratique des commandements. Mais par ailleurs, on essaye de faire montre d'une grande ouverture. C'est-à-dire que toutes les personnes sont bienvenues, quel que soit leur niveau de pratique. Bien entendu, que ce soit des hommes ou des femmes, mais aussi leur orientation sexuelle. On est, je pense, ouvert sur les personnes qui viennent telles qu'elles sont. Donc ça va être peut-être une première incarnation de cela. Je mentionnais tout à l'heure la question du profil des fidèles qui vont être des personnes qui vont être très investies dans la vie culturelle et intellectuelle du pays et qui du coup se retrouvent aussi bien à Hayeka parce qu'il y a ce foisonnement d'idées. Je me rends compte que par exemple au début de l'année, donc c'est un chercheur par exemple à Paris 4 qui s'appelle David Lemler qui a publié donc chez Albin Michel L'invention du judaïsme, qui est un livre absolument passionnant. Donc j'ai organisé une conférence sur ce livre. Et puis un autre fidèle de la communauté qui s'appelle Michael de Saint-Chéron, avec qui j'ai coécrit mon premier livre, m'a dit j'en sors un autre au sujet justement d'Elie Wiesel, et puis je vais publier une traduction chez Kalman Levy dans un mois. Et je me suis dit en fait, et on n'est vraiment pas allés seuls, il y a comme ça dans la communauté, je pense, une forme de bouillonnement intellectuel. On a envie vraiment de participer au débat d'idées, de s'y investir pleinement, et ça caractérise aussi l'orthodoxie moderne, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas en retrait.
On veut s'attaquer aux idées les plus complexes et essayer d'en faire jaillir la substantifique moelle.
Et je pense qu'aussi, c'est une forme d'atmosphère qui se ressent, dans le sens où on se définit pas de la même façon que d'autres community talks peuvent se définir par la crispation sur certains sujets, notamment les sujets liés au genre ou à toutes ces questions qui font débat aujourd'hui. On est dans une forme de plus grande détente vis-à-vis de cela. Et je dis souvent... Parce qu'on me dit, oui, mais il y a beaucoup de communautés qui sont très ouvertes où on ne juge pas les personnes qui arrivent. Je pense qu'il y a plein de communautés consistoriales où tu peux venir et les gens ne vont pas te juger. Donc la question, elle est pas forcément là. Elle se situe aussi sur le fait qu'on accueille les gens. Notre but, ce n'est pas de les rendre plus pratiquants. Notre but, c'est de leur faciliter un moyen pour se reconnecter ou se connecter ou approfondir un rapport avec leur judaïsme. Ensuite, si les personnes veulent devenir plus pratiquantes, nous, en tant que rabbins, on aura toujours une main tendue. On est là pour accompagner. Mais globalement, on est dans une forme d'approche... d'accueil inconditionnel, quel que soit le profil des personnes.
Alors, le judaïsme français, ou plutôt les judaïsmes français, qui est particulier, avec un certain nombre d'obédiences, le monde traditionnel consistorial, orthodoxie, ma sortie, les libéraux, et malgré tout, un certain nombre de divisions qui sont plus accentuées depuis quelques temps, on en reparlera depuis le 7 octobre. Comment les autres mouvements vous perçoivent ?
Bonne question.
Je pense que nous,
on est en très bon terme avec les libéraux, les massortis, même si chacun sait où on se tient, qu'on ne partage pas les mêmes options, la même forcément théologie ou idéologie, on se parle très bien. Ensuite, moi, je prie régulièrement dans des synagogues orthodoxes, ultra-orthodoxes, parce que chez les Ashkenazes, ça va vite, donc j'aime bien y aller. Et on parle le même langage avec certains rabbins, même ultra-orthodoxes, étant donné qu'on parle le langage de l'halakha, donc on peut avoir des débats sur l'interprétation de textes. Moi, j'ai fait la yeshiva, voilà, je parle le même langage qu'eux, et c'est avec, on va dire, plutôt le monde consistorial, où il y a une forme d'ignorance mutuelle, pas de guerre ouverte déclarée, mais disons que là, ça dépendra, on va dire, des personnalités, des individus, mais en tout cas, au niveau institutionnel, il n'y a pas... De véritables échanges qui se passent.
Par exemple, il n'y a pas de prise de position officielle du consistoire sur les femmes rabbins. Donc, moi, je dirais qu'on n'a pas du tout de guerre à mener contre le consistoire. Simplement, je pense qu'il y a des personnes qui ont testé des offices consistoriaux et vont s'y trouver très bien, et d'autres qui ne s'y reconnaissent pas et qui vont être chez nous. Je pense qu'on a quand même la chance d'habiter à Paris, dans une communauté juive qui est vraiment, là encore, extrêmement foisonnante. On assiste, nous, à la création de structures qui sont plus récentes que Ayeka et qui bourgeonnent dans un peu tous les appartements, des nouveaux locaux, des nouvelles initiatives. Il y a eu, par exemple, Béalma, Minyan Sefarad égalitaire, on a Ineni, Yom HaShishir. Enfin, il y a plein de mouvements qui se créent autour de nouveaux offices, un désir de vivre son judaïsme de manière encore un petit peu différente. Et on a l'impression qu'il ne faut pas vivre tout ça comme une concurrence, mais plutôt comme un signe très positif. Une multiplication de l'offre vient en fait répondre au fait qu'on a énormément de personnes, et je dirais surtout depuis le 7 octobre, qui souhaitent en fait vivre leur judaïsme plus intensément, qui sont revenus au judaïsme également après le 7 octobre, qui ont voulu retrouver ce tissu communautaire, et qui à ce moment-là ont impulsé également cette dynamique de création de nouveaux offices, de nouveaux mouvements, de nouvelles études, etc.
Et ça participe en fait à un mouvement de fond qui n'est pas que juif, mais qu'on retrouve bien dans le monde juif actuel, que ce soit en France ou dans les autres pays d'ailleurs, qui est que je pense que les jeunes comptent de moins en moins sur les institutions pour exister, et que se développent plein de nouvelles initiatives hors institutions dans lesquelles les personnes vont juste pouvoir avoir un petit peu plus de liberté de créer leurs choses, et ensuite... a posteriori, créer des ponts avec les institutions déjà existantes. Mais il y a des groupes d'études qui sont créés, des nouvelles synagogues, des nouveaux endroits, des nouvelles formes de sociabilité juive qui n'existaient pas jusqu'alors. Et je pense que ça correspond à un véritable besoin de pluralisme dans la communauté juive, que comme toutes les institutions, en fait, au bout d'un moment, en fait, les institutions, elles s'uniformisent et du coup, elles laissent moins la place, on va dire, au pluralisme au sein d'elle-même, et c'est pour ça qu'il y a d'autres choses qui émergent et qui ensuite vont s'institutionnaliser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est très bien.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de la rabbinite Myriam Ackermann-Sommer et du rabbin Emil Ackermann, qui nous parle d'Ayeka. On va revenir un peu sur ce sujet qui est sans doute essentiel aujourd'hui parmi les Juifs de France. Vous parliez de crispation, on peut aussi parler de blocage parce que dans certains groupes consistoriaux orthodoxes, une femme rabbin, la culture à tout prix, l'ouverture au monde, parler avec les chrétiens, les protestants, les catholiques, les musulmans, sont parfois perçus comme quelque chose d'antinomique avec ou la halakha ou le fait d'être dans l'orthodoxie et on est relégué ou accusé. Alors, ce n'est pas une critique, hein, mais d'être des libéraux, etc. Comment vous répondez à ces personnes-là? Vous êtes dans la halakha, vous la respectez?
En fait, il y a aussi une tendance dans tous les groupes de toujours vouloir regarder vers sa droite ou vers sa gauche pour chercher l'approbation des franges les plus radicales. Je pense qu'on est un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire que on existe, on se développe, on n'a pas besoin d'avoir la validation des plus ultra ou des moins ou des plus radicaux à droite ou à gauche. On avance, on est dans une lignée de rabbins, nos autorités rabbiniques, ce sont des poskim, des décisionnaires halakhiques qui sont reconnus par des centaines de rabbins et de communautés aux États-Unis et en Israël. Moi-même, je descends d'une lignée de personnes qui s'inscrivaient dans le judaïsme du Rav Shimshon Raphaël Hirsch et du Rabbi Hildesheimer, en Allemagne et puis en Alsace. D'ailleurs, on n'a rien à prouver à personne. S'il y a des personnes qui veulent venir, qui veulent débattre avec nous, qui veulent réfléchir, qui veulent écouter ce qu'on a proposé en termes de Torah, on a un site internet, on a des articles, on a des interventions qui ne sont pas que des positionnements politiques, mais on a produit de la Torah. Myriam, en face de moi, a fait un podcast sur le Talmud, elle a 1400 épisodes sur le Talmud. Donc on étudie, on est investi dans notre judaïsme, on est investi dans notre halakha. Ceux qui veulent venir faire du tourisme culturel, ils seront toujours les bienvenus pour regarder. Si après, il y a des personnes qui veulent critiquer, moi, je suis très ouvert à la critique. Je pense par contre qu'il faut nous attaquer sur des choses concrètes et qu'on vienne s'ouvrir au débat. C'est pour ça que je dis que je parle souvent beaucoup le même langage avec les ultra-orthodoxes même qui peuvent nous critiquer, puisque quand on est sur le même, quand on a le même vocabulaire qui est le vocabulaire de la halakha, de la loi juive, et qu'on s'affronte sur des points techniques d'interprétation, et bien là, c'est ce qu'on appelle la marloquette, les Shem Shamaim, une discussion au nom des cieux.
Et je pense que là où c'est le plus difficile, c'est quand, effectivement, c'est une critique qu'on a beaucoup entendue, vous êtes libéraux, on a l'impression que souvent, c'est des représentations qui sont profondément ancrées dans les personnes qui nous font ce reproche, qui sont souvent très affectives. L'exemple de la place des femmes, c'est très typique de cela, puisque... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent une femme rabbin, ben c'est interdit, mais qui ne sauraient pas vraiment expliquer pourquoi. Je me souviens, ça c'est un exemple qu'on aime bien mentionner, mais que lors de l'une des premières initiatives communautaires qu'on avait créées, on avait annoncé que les femmes feraient le kiddush de Shabbat, donc feraient la bénédiction sur le jus de raisin. Et alors on s'était dit, bon, vu que en fait, les gens qui viennent d'un milieu, on va dire, consistorial ou orthodoxe, ils n'ont pas l'habitude, on va imprimer des sources. Comme ça, pendant Shabbat, les gens verront que c'est autorisé. Et je me souviens que quelqu'un nous avait dit, mais moi, ce n'est pas le problème que ce soit autorisé ou pas, c'est que je n'ai jamais vu ma mère et ma grand-mère le faire. Donc il y a aussi, je pense, du point de vue... de ce qui est profondément ancré, voilà, au niveau émotionnel, il y a des gens qui ne sont pas prêts pour certaines choses qui sont par ailleurs tout à fait autorisées. Donc qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Moi, ce que je répondrais, c'est qu'en fait, il faut penser non pas à leur mère et à leur grand-mère, mais à ce que pourraient faire ou ne pas faire leur femme, leur fille, leur petite-fille. Puisque de nos jours, je dirais qu'on a la possibilité d'avoir une vraie diversification des modèles, par exemple, des modèles féminins dans la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire si une petite fille grandit dans son judaïsme en se rendant compte qu'elle peut être une brillante avocate, elle peut être chirurgienne, avoir des responsabilités, être PDG, tout ce qu'elle veut, mais juste dans le judaïsme, là, elle ne pourra rien faire. Je pense que ça renvoie à quelque chose de catastrophique. On a des personnes, bien entendu, comme Janine Elkoubi, par exemple, qui ont combattu pour que des femmes puissent avoir une vraie visibilité communautaire. On voit en Israël tout ce qui est en train de se passer autour de la question de l'ordination des femmes. Les femmes se battent pour pouvoir passer les examens de la rabbanout qui vont leur permettre d'attester du fait qu'elles ont exactement le même niveau qu'un homme du point de vue des connaissances religieuses. Donc là, après, est-ce que ça veut dire qu'elles auront une communauté automatiquement? Non, mais si les communautés les choisissent, alors on va commencer à avoir de plus en plus de femmes rabbins. Ne serait-ce que dans ma yeshiva, la yeshiva de Maharat, on a désormais 100 élèves qui ont reçu l'ordination et il y en a plus chaque année. L'an dernier, nous avions deux Françaises, Rana Ruimi et Evelyne Oliel-Gross. Il y a encore d'autres Françaises
qui sont en train de créer leur communauté.
Qui ont déjà créé une communauté
à Paris.
La communauté Liba, qui est une autre communauté orthodoxe moderne. Donc on voit bien que ça vient répondre à un besoin. Sinon, ce serait vide. Chaque fois qu'on ferait un événement, il n'y aurait personne. Ça ne correspondrait pas à une demande. Et donc je dirais, ça j'en parle quand on dit par exemple, mais chez vous, les femmes lisent la Torah ou étudient le Talmud. Mais ça, les femmes ne le veulent pas. On dit que, en fait, il y a des femmes qui sont désireuses, qui sont en demande, qui constatent à quel point il y a un contraste, une forme de béance entre leurs connaissances très approfondies dans les domaines dans lesquels elles travaillent et le constat qu'elles maîtrisent par exemple mal l'hébreu, qu'elles auraient du mal à lire ne serait-ce que la paracha ou en tout cas a fortiori des textes plus techniques comme la Mishnah, la Gemara et par la suite toute la loi juive qui s'élabore finalement sans elles. Peut-être que, je vais peut-être rentrer dans un sujet un tout petit peu polémique, mais peut-être que si on n'a pas de hérouv, ce dispositif qui permettrait aux personnes juives religieuses de porter dans la rue, donc dans un espace semi-public à Paris et en banlieue, c'est peut-être aussi parce que les femmes n'ont pas ces connaissances. Donc quand elles ont sollicité les autorités rabbiniques en place en disant « nous on veut un hérouv », la réponse c'était « ah, la loi ne le permet pas ». Donc ça veut dire que le savoir est aussi pouvoir et qu'on prive les femmes d'une participation pleine et entière à l'élaboration de la loi juive. Mais les choses sont en train de changer et là Israël est vraiment en train de modifier en profondeur ce que les femmes peuvent faire, et on voit vraiment le changement partir de là-bas. Je pense qu'on aura une véritable vague de fond qui touche dans un premier temps, bien entendu, les États-Unis, mais qui ne saurait manquer d'arriver en Europe, donc dans les, par exemple la France, la troisième plus grande communauté juive du monde par la suite. Moi, c'est mon pari que d'ici quelques décennies, et je ne saurais dire exactement combien, les femmes rabbins, ce sera finalement un peu comme la bat mitzvah, ce sera accepté, toléré dans beaucoup de segments de l'orthodoxie. Je pense qu'on va vers ça et que ça va être une vague de fond inarrêtable.
La bat mitzvah d'ailleurs, qui est une invention libérale, mais qu'aujourd'hui aucun juif consistorial ne se verrait ne pas fêter pour sa fille par exemple.
Oui, alors ça prendra pas forcément, peut-être que ce seront des rabbinotes qui seront rabbins des femmes ou pour les femmes dans certains milieux qui ne sont pas mixtes, mais en tout cas je pense que cette notion de l'expertise religieuse féminine, elle est centrale, et la question des rôles modèles, elle l'est aussi, parce que sinon on risque d'éloigner nos filles et nos petites filles du judaïsme.
Alors il y aurait beaucoup de choses en réaction à vos propos, et peut-être aussi parfois de dire que les femmes sont aussi les plus réfractaires à respecter pour elles-mêmes la halakha, et que aussi un hérouv, il y en a un qui vient de se créer à l'initiative du grand rabbin Lévin dans le 93 et au Rinci. Alors, on a survolé, on a abordé la question du 7 octobre. Vous êtes arrivé dans une époque un peu compliquée et dans le judaïsme français et même ailleurs, c'est plus pareil. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? En fait, qu'est-ce que vous avez initié pour peut-être rassurer la communauté juive qui serait tentée de ne pas rester en diaspora, de ne pas rester en France? Qu'est-ce que ça a fait chez vous, le 7 octobre?
Le 7 octobre réveille en fait des peurs qui sont, et des angoisses qui sont déjà là dans la communauté française en général sur la question de l'antisémitisme, qui est bien existant malheureusement aujourd'hui en France. Et il ne s'agit pas du tout de le minorer, mais comme je disais tout à l'heure, la communauté française vit quand même et elle foisonne de nouvelles initiatives. Et je pense qu'il va falloir plus que les antisémites de tous bords en France actuellement, dans les milieux politiques, etc., pour casser cette dynamique. On dit souvent que l'Alia, c'est un choix qui est tout à fait légitime, mais que ce serait dommage que de partir parce qu'on a peur et parce qu'on pense qu'on n'a plus d'avenir en France. Il faudrait que tout le monde puisse faire ce choix d'une manière éclairée. Et donc, si on part, ce ne soit pas avec la valise sous le bras très rapidement, mais que ce soit un projet, que ce soit idéologique, que ce soit bien vécu, et que les personnes qui veulent rester, au contraire, il faut tout faire pour continuer à faire vivre le judaïsme de France et tout faire pour que les personnes qui veulent rester mais qui n'en ont pas les moyens, qu'on leur donne les moyens. Et je pense que la diaspora a un rôle à jouer très, 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 très fort dans le développement du judaïsme, et qu'on ne vit pas son judaïsme de la même manière en Israël et en diaspora, et que les deux ont à s'apporter mutuellement. Les deux doivent continuer à dialoguer. Et je peux trouver dommage aussi qu'il y ait une tendance aussi parfois à dénigrer la France une fois qu'on soit parti, en disant il n'y a rien à faire là-bas, de toute façon c'est fini.
Je pense qu'on légitime aussi à posteriori un choix qu'on a déjà fait. C'est vrai qu'on entend beaucoup, et ça c'était bien avant le 7 octobre, on entendait beaucoup en Israël un discours peut-être un peu catastrophiste sur de toute façon la France c'est fini, etc. Nous en tout cas, tout en étant sionistes, on estime que la France, ce n'est pas fini. Et c'est vrai que ça, c'est une question qu'on a beaucoup eue. Et paradoxalement, plutôt cet été, moi, j'avais beaucoup de gens qui m'arrêtaient dans la rue cet été. Est-ce que je dois partir ou pas? Et j'ai trouvé que c'était une question très troublante. C'est aussi parce que l'une des réponses que j'ai voulu apporter personnellement au 7 octobre, c'était une plus grande visibilité sur les réseaux sociaux en tant que juive sioniste assumée, sur des positions modérées, hein, mais en tout cas mettant en avant cet aspect-là. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait évidemment beaucoup d'insultes, mais aussi beaucoup de soutien, mais aussi que certaines personnes se disaient « elle va faire ce choix-là pour nous, est-ce qu'on doit déménager ou pas ?» Et pour moi, c'est ce que dit Émile, la vraie question, c'est est-ce que vous, là, vous envisagez un avenir en Israël ou est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous fuyez la France telle qu'elle est maintenant? Parce que c'est vrai que c'était un été, alors je dirais en Europe, qui était assez infernal, puisque chaque jour, on était confronté à des images très dures de personnes qui étaient interpellées. Alors ça, c'était notamment associé à la question sionisme et antisémitisme, qui était sans arrêt lié et qui était à l'origine d'une certaine confusion. Nous, on continue à dire aux Juifs de France qui voient un avenir en France, que rester est une option tout à fait valable, tout autant que partir.
Vous êtes jeune, vous êtes intelligent, vous êtes beau.
On va revenir plus souvent. Hein.
Voilà. Est-ce que c'est un métier de devenir rabbin?
C'est un métier comme un autre. Normalement, quand on est rabbin, on se forme dans une école rabbinique et ensuite on est placé, on passe des entretiens d'embauche dans des synagogues existantes. Notre cas est un cas particulier puisqu'on a monté notre propre synagogue. On nous a appelés les start-up rabbis parce qu'il a fallu monter, pas tout seul bien sûr, avec l'aide d'une équipe. On a été très bien entouré depuis le début. On continue d'être très bien entouré aujourd'hui. C'est un métier comme un autre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est parce qu'on ne fait jamais la même chose deux jours de suite. Je donne des cours à des enfants, des adultes, des personnes âgées, je fais des interventions dans des écoles, je fais de l'office, je fais des cours un petit peu sur tous les sujets différents de halakha, de pensée juive, la paracha, les enterrements, les mariages, la préparation au mariage. Voilà, il y a de quoi faire, il y a à boire et à manger. Et voilà, moi, j'aime pas trop m'ennuyer, donc c'est quelque chose qui me convient très très bien.
Myriam, c'est quand même audacieux de devenir rabbin aujourd'hui.
Et en même temps nécessaire. C'est-à-dire que je pense que on est venu répondre à une demande et cette demande, elle évolue constamment. Tout simplement pour illustrer ce que signifie être aussi juive dans la cité. Je rapporterai que hier, je me promenais dans la rue dans le 6e arrondissement, donc à Vavin, et tout à coup, il y a deux lycéennes, l'une juive, l'autre musulmane, qui étaient meilleures copines, qui me disent « C'est vous la rabbine de TikTok ?» Alors, mon mari a créé TikTok à mon insu et a posté des vidéos de moi, donc je ne savais pas que j'étais la rabbine de TikTok. Mais en tout cas, elles m'ont dit « Oh madame, on adore le Talmud grâce à vous. Est-ce que vous pouvez poster des vidéos de Talmud ?» Donc je me suis dit, deux jeunes filles de 15 ans, une juive, une musulmane, qui sont copines et qui me disent « On aimerait plus de Talmud », made my day, comme disent les Anglais. Ça m'a fait vraiment, en tout cas, très plaisir. Et ça montre aussi ce qu'on a encore à apporter. Il ne faut pas laisser ce désespoir qui pourrait prendre le dessus. Il ne faut pas laisser ça triompher. Je pense qu'on a encore énormément à apporter en France. On est là pour le faire. On est toutes les semaines à l'Écuge, Gare du Nord. On continue à essayer de porter cette voix et cet investissement, ce désir de faire vivre le judaïsme français au jour le jour.
L'Écuge, donc, je profite pour remercier Gadibgi, notamment son directeur général, qui nous accueille et qui nous soutient depuis très longtemps.
Alors, dernière question pour conclure. On vous a écouté, on a envie d'essayer, on a envie de tester, on a envie de voir. Comment on fait pour vous rejoindre?
Les offices sont le samedi matin à partir de 10h jusqu'à midi et demi à peu près, à l'Écuge, donc au 119 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement. On fait aussi un repas communautaire après l'office une fois par mois. On a des cours les jeudis soirs, la plupart du temps, parfois c'est le mercredi. On a un site internet qui s'appelle ayeka.net, ayeka.net. On a une page Instagram, Myriam a sa page Instagram aussi, Rabbanit Myriam Ackerman Sommer, rabbanit.miri. M-Y-R-I sur Instagram.
Et n'oublions pas les enfants.
On est sur tous les réseaux sociaux, les enfants.
On a également un Talmud Torah. N'oublions pas nos enfants.
Oui,
non, c'est pas encore l'heure de la sortie de crèche. N'oublions pas les familles, les enfants. On propose donc un Talmud Torah tous les dimanches de 10h à 12h30. On a déjà plus de 20 enfants entre 3 et 10 ans. Et après, on fait des cours particuliers pré-bar et bat mitzvah. Donc, on est vraiment très heureux d'avoir ce public qui s'est diversifié, qui a grandi aussi avec nous et qui s'est diversifié au fil des années.
Merci beaucoup Myriam Ackermann-Sommer et Emile Ackermann d'avoir accepté de répondre à nos questions. On sait un peu plus ce qu'est Ayeka et la moderne orthodoxie et je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller voir ce qui se passe chez vous.
Merci.
Et bonne chance pour la suite.
Merci pour tout.
Merci beaucoup.